Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Time Sport sur Beurre FM. Votre émission sport quotidienne de 20h à 21h. Une émission encore riche ce soir avec des consultants qui sont chauds, chauds comme la braise. Par exemple, je pourrais parler de notre ami Viknesh. Comment ça, Viknesh ?
Salut Claude, ça va très bien. On est chaud, il y a pas mal d'actualités. On a un bel invité après, donc on est là.
Abdel est avec nous également ce soir. Abdel, comment ça va ?
Ça va Claude, bonsoir à toutes et à tous. Très content d'être là. Comme il l'a dit Viknesh, il y a pas mal d'actualités, donc impatient de débuter.
Samir nous a rejoint également.
Comment pas Samy.
Bonsoir à toutes et à tous. Bah, content d'être parmi vous, impatient de parler de ce qui se passe du côté du LOSC, par exemple. Ouais,
sans oublier Fred qui est avec nous ce soir. Comment ça va, Fred ?
Salut Claude, écoute, je suis arrivé, j'ai vu un beau plateau, ça m'a réjoui d'avance, donc là on est chaud. Là,
ouais. Ok, donc quand il n'y a pas un beau plateau, tu viens pas.
Non, c'est un peu une surprise, mais c'est une belle surprise ce soir.
D'accord. Ok, comment ça se passe pour ton équipe de jeunes là ? T'es coach aussi toi ?
C'est ça, on en parlait juste avant, c'est un peu compliqué, mais bon, c'est le début de saison.
C'est l'apprentissage.
Voilà, c'est
l'effet
là, il va avoir les vacances.
qui vont faire du bien.
Voilà, c'est ça.
T'es son assistant toi, il peut pas parler.
Il suit de près.
Il complète les phrases, c'est bien.
Quel parle club, beaucoup lui et moi.
Quel club ?
Alors, le club, c'est les enfants de Passy et j'en profite pour passer le bonjour, le bonsoir à tout le monde.
Ouais, puisqu'on sait qu'Abdel parcourt un peu différents terrains. De France, d'Île-de-France. Les jeunes, souvent, U19 nationaux.
Jusqu'à U19, après senior, c'est trop la baston, un peu la flemme. Petit match PFC Torcy qui a eu lieu dimanche, qui était sympa avec une belle équipe de Torcy qui a montré un beau visage face à un club professionnel. Merci. Même si ça reste le PFC.
On y reviendra plus tard. En tout cas, Abdel, voilà, l'habitude le week-end d'aller dans différents terrains d'Île-de-France, mais pas n'importe lequel. Lui, il va là où il y a des pépites potentielles. Hein,
il cible les matchs.
On peut voir. Au menu de ce Time Sport, on parlera bien sûr du LOSC après ce match nul 0-0 face à Séville. Doit-il déjà oublier la qualification, sans oublier la course au Ballon d'Or, CR7, Lewandowski, Jorginho, tous les favoris ont brillé en tout cas cette semaine en Ligue des Champions. Et puis un mot de NBA avec Fournier et Gobert qui font le show, sans oublier notre invité Dave Apadou, journaliste, qui sera avec nous dans quelques instants. Allez, on enchaîne.
Time Time Sport.
Bonjour à tous, on démarre ce JT par un point Europa League et l'Olympique Lyonnais qui devra faire encore sans Islam Slimani et Moussa Dembélé ce soir sur la pelouse du Sparta Prague. Monaco de son côté ira affronter le PSV Eindhoven sans Djibril Sidibé, Alexander Golovin et Cesc Fabregas, tous les trois en phase de récupération. Il s'agit au passage ce soir du 200e match européen de l'histoire de l'ASM. Bien évidemment, on n'oublie pas l'Olympique de Marseille qui évolue en ce moment face à la Lazio depuis 18h45. Nouveau classement FIFA mis à jour. Et les Bleus qui retrouvent le podium grâce à sa victoire en Ligue des Nations. L'équipe de France se glisse derrière le Brésil deuxième et les Belges toujours étonnamment en tête. Le Bayern Munich devra lui faire sans son coach Julian Nagelsmann, positif au Covid-19. Et donc à l'isolement pendant plusieurs jours comme le veut le protocole. Et enfin un petit mot de gymnastique et la Russe Angelina Melnikova qui remporte au Japon le championnat du monde du concours général pour la toute première fois de sa jeune carrière. Voilà, c'est tout pour ce soir. En vous souhaitant une bonne émission en compagnie de Bilal et toute l'équipe Time Sport.
Bonjour à tous,
on démarre ce JT par un point.
Ah ouais, non, il n'avait pas redémarré une seconde fois. Merci en tout cas pour le JT. Un mot pour ce match de Ligue Europa entre la Lazio de Rome et l'Olympique de Marseille. L'heure de jeu passée toujours 0-0 au stade Olympico. Et puis dans le même groupe à 21h, le Lokomotiv Moscou recevra les Turcs de Galatasaray. Allez, on passe au menu.
Time Sport. Le sujet des sociaux.
Le sujet des sociaux. Le sujet des sociaux, les amis. Lille, FC Séville, 0-0. Est-ce qu'on est plutôt déçu ? Résultat logique. On aurait espéré mieux, pas mieux. Abdel ?
Ouais, on va dire que c'est un bon résultat parce que ça permet à Lille de rester en vie. Quand on voit le classement, il y a le Salzbourg qui est loin devant avec 7 points. Après. Séville 3 points et Lille et Wolfsburg à 2 points. Hier, on a vu un match sans grande intensité, des équipes qui se sont regardées pendant 90 minutes. Malheureusement, je pense que ce scénario bénéficie plus à Séville qui les recevra dans deux semaines plutôt qu'à Lille, qui aurait pu montrer un peu plus les dents. Maintenant, voilà, on les voyait déjà morts lors du tirage. On va dire qu'ils restent encore en vie et que ça, c'est plutôt bénéfique. Maintenant, voilà, quand tu vois qu'ils ont perdu contre l'adversaire le plus faible du groupe, Salzbourg, tu dis que c'est dommage. Mais hier, voilà, un match sans... On aurait plutôt dit un match de Ligue Europa, pardon, plutôt qu'un match de Ligue des Champions en termes d'intensité. Pas beaucoup de tirs au but. Voilà, ça a été compliqué. Après, avec des mecs comme Gourvenec, qu'on sait très bien, le coach qui a du mal à passer ce cap et retrouve un banc, c'est plutôt de bon augure, on va dire. Donc c'est à suivre.
Samir, merci Abdel.
Bah écoutez, moi, enfin à l'inverse de ce que dit Abdel, moi je suis plutôt déçu. Alors mathématiquement, c'est sûr et certain que le LOSC est encore en course. Par contre, t'as déjà, si je dis pas de bêtises, t'as déjà reçu deux fois. Malheureusement, t'as pas gagné les points qu'il fallait. Et puis moi, ce qui m'inquiète en dehors des points mathématiquement, c'est le contenu. Ça m'inquiète. C'est vraiment, voilà, on le dit depuis le début de saison. On voit que la transition entre Galtier et Gourvenec, elle est très compliquée. On reconnaît pas des joueurs qu'on a vus la saison dernière. Peut-être que Galtier a réussi à tirer le meilleur de ses joueurs et peut-être que Gourvenec n'y arrive pas. En tout cas, en termes de jeu, que ce soit dans l'individualité ou collectivement, on retrouve pas ce qu'on a connu du LOSC. Et pourtant, en réalité, on a perdu que Mike Maignan. Donc moi, je suis plutôt déçu parce que je suis chauvin. J'aimerais bien que les clubs français fassent quelque chose de bien en Champions League. Et malheureusement, ça revient à ce qu'on a l'habitude de dire sur les clubs de Ligue 1. C'est-à-dire que ce ne sont pas des clubs qui ont l'habitude, en dehors du Paris Saint-Germain, de jouer des compétitions importantes. Et ça se vérifie malheureusement, encore une fois, avec le LOSC. Donc pour ma part, je suis complètement déçu.
Pourtant, Fred, quand on voit le classement, Salzbourg 7 points, le FC Séville 3 points. Lille et Wolfsburg 2 points, donc tout reste possible pour les Lillois.
Mathématiquement, tout reste encore possible, que ce soit une qualification en Champions League ou même en Europa League, ce qui serait très bien. Après, je relance ce que tu dis. Quand le problème, en fait, c'est pas mathématiquement, ils peuvent encore se qualifier. Bon, ils vont jouer à Séville au prochain match, mais c'est un peu une petite finale déjà en soi. Mais c'est plus le contenu qui est inquiétant. Après, il y a quand même de la qualité à Lille. C'est leur deuxième édition en Ligue des Champions. La saison passée, ils avaient fait des belles choses, mais ils ont manqué d'expérience.
Deuxième édition de leur histoire ?
Non, d'affilée, je veux dire.
Non, l'année dernière, ils étaient en Ligue Europa. Dans le groupe du Milan.
Oui, c'était Rennes qui était en
Ligue. Ah oui, c'est la saison d'avant qui était dans le groupe.
Mais parce que Rennes, ils étaient à peu près dans le même groupe que
Lille. Moi, je me rappelle des époques.
Je confonds l'époque.
Ils ont joué il y a 9 ans.
Non, je te parle. Je pensais j'étais resté sur la saison avec Chelsea, Ajax et Valence dans la poule. Parce que j'étais parti justement voir un match à Lille. Et j'avais beaucoup apprécié le contenu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est regrettable, c'est le match face à Wolfsburg, le premier match, parce que ce match-là, il était vraiment pour eux. Il y avait eu un but qui avait été refusé pour Jonathan David. Ce match, tu le gagnes chez toi pour le premier match, tu prends 3 points. C'est pas pareil. Après, Gouvernec disait en conférence de presse qu'ils avaient déjà 2 points et que c'était déjà mieux qu'il y a 2 saisons. Mais c'est encore possible qu'ils essayent d'accrocher au moins l'Europa League. Wolfsburg, c'est pas incroyable non plus. Hein. Ouais. Qui vise la troisième place, les Lillois, ce sera déjà bien.
Donc pour toi, troisième place, alors qu'il y a encore un match retour contre Séville, on n'est qu'à un point de la deuxième place et il reste 3 matchs à jouer.
Ouais, 3 matchs, non, mais tout est jouable, mais.
Tu vas 2 fois à l'extérieur.
Il joue 2 fois à l'extérieur, c'est ça.
Donc vous y croyez pas?
Si, j'y crois, mais.
Moi, je suis optimiste.
Vignesh, on n'y croit pas pour le LOSC.
Moi, j'y crois pas une seconde, en fait.
Tu crois pas une seconde? Bah écoute, on envoie un message de la part de Vignesh à Jocelyn Gourvenec. Ok, donc Jocelyn.
Mais jamais de la vie, Lille, ils vont se qualifier parce que là, déjà en 3 matchs, ils ont fait 3 matchs médiocres au niveau du jeu. Ça a été déplaisant. Et au niveau du jeu, il n'y a rien. L'année dernière, Galtier, en fait, il a tiré la quintessence de cette équipe-là. Et là, on voit cette année, il n'y a rien. En fait, les joueurs, l'année dernière, ils étaient à 200%. Là, ils sont à 100% et on voit leur vrai niveau. Donc, c'est nul, Lille, concrètement. Et en Ligue 1, on voit que ce n'est pas fort non plus. Donc, là, il reste 3 matchs. Il y a 2 déplacements à Wolfsburg et à Séville. À domicile, ils ont fait 0-0. À l'extérieur, ils vont se faire taper. Ils vont prendre cher, je pense. Et Salzbourg, ça va être pareil. Salzbourg, ils sont très très bons en ce moment. Donc je pense que Lille va faire 0 points sur la phase retour. Et ils vont terminer dernier. Et comme d'habitude, club français, on va terminer dernier, rentrer à la maison. On va dire la Ligue des Champions, c'est trop dur pour nous, on n'arrive pas à jouer. Et ça va être comme ça. Donc je pense que Lille, non, ils vont rien faire. Et voilà, c'est comme ça. Même l'Europa League, on a vu l'année dernière pour Lille, c'était dur. Donc la Ligue des Champions.
À Milan, ils avaient bien joué. Hein.
Ouais, ben c'est bien de bien jouer. Après, il faut se qualifier, il faut continuer en fait. Donc c'est bien de bien jouer. Mais là, cette année, ils jouent même plus bien. C'est ça qui est catastrophique. Même contre Séville, qui a certes gérer un peu le match, mais ils ont pas su se montrer, enfin, on va dire, ils ont pas su se montrer comme il faut, être dangereux. Et contre Wolfsburg, là, c'était le meilleur match, on va dire. Mmh. C'est le moins dur, moins catastrophique. Même là, ils ont pas su faire la différence. Donc à partir de là, non, Lille, ils feront rien, ils vont terminer dernier. Et deux points, c'est déjà
on
bien.
On a compris, Vignesh ne regardera plus les matchs du LOSC, voilà, dans Ligue des Champions.
Bah, non, il n'y a plus d'intérêt.
Qui vient de nous rejoindre.
Oui, bonjour à tous. Ça va très bien, et toi,
impeccable. Mais écoute, ça va impeccable. Est-ce que tu es aussi pessimiste
Exactement.
Que notre ami Vignesh? C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de regarder
les matchs. Objectif, pas pessimiste.
Moi, je rejoins Vignesh.
Attends, ils ont, ça n'a pas été joué encore, Sarah.
Moi, je rejoins Vignesh, exactement. J'y crois pas du tout. Ils n'ont pas su saisir les opportunités à domicile et je pense qu'à l'extérieur, ça va être très, très compliqué, notamment à Séville. Ce qui est désolant, c'est qu'après la défaite contre Clermont, on entend les temps dire on a touché le fond. On aurait, je sais pas, pu imaginer, un sursaut d'orgueil, enfin, j'en sais rien, des joueurs, mais alors, oui, on parle du départ de Galtier, mais l'effectif reste à peu près le même, à part Mike Maignan. C'est dommage. Ouais. C'est dommage pour cette équipe.
Mais c'est déjà pas mal, Mike Maignan.
Il y a des joueurs tu l'as dit, Vignesh, il y a des joueurs comme en sur-régime l'année dernière, et là, on les voit un peu plus en difficulté. Après, il n'y a pas. Il y a une question de coach, comme tout le monde l'a dit, dans le sens où c'est pas tout le monde qui arrive à sortir le meilleur de ses joueurs. Moi, personnellement, je pense que il faut avoir un peu d'optimisme, même si Séville a encaissé que 3 buts depuis le début du championnat, en Liga. Je trouve que y a une possibilité pour Lille de jouer décomplexé, d'aller faire des scores. Notamment à Wolfsburg et à Salzbourg, donc pourquoi pas avoir. Mais je pense qu'ils sont pas morts.
Merci Abdel. Merci Abdel. Par contre là, en fait, on nous attend du côté du Brésil avec notre ami, notre aventurier Bilal Venture qui est avec nous ce soir comme tous les lundis et jeudis. Comment ça va, Bilal?
Oui, bonsoir, ça va, vous allez bien?
Bah écoutez, ça va impeccable, on est heureux à chaque fois de vous retrouver. Ça nous fait un petit peu voyager, même si on reste cloîtré du côté de Paris.
Ah bah écoutez, ça fait toujours plaisir de vous avoir, même à l'autre bout du monde, on se sent toujours connecté avec la France, avec tous nos chers auditeurs et auditrices. Et voilà, donc là on est en direct de Rio de Janeiro.
Ouais, je peux vous assurer, Bilal, que beaucoup nous demandent. Alors, il en est où au niveau de ses aventures? Est-ce qu'il s'en sort? Dites-nous tout, racontez-nous tout.
Alors, écoutez, là, il a fait chaud, il a plu un peu, mais on a fait pas mal de choses. Franchement, je suis content d'avoir fait tout ce que j'ai fait. Là, je vais tout vous raconter. Donc, en fait, voilà, il y a la statue du Christ Redemptor, donc le Corcovado. Voilà, je me suis lancé le challenge de la gravir à pied, par temps pluvieux. Et du coup, j'ai traversé la jungle et je suis monté jusqu'en haut. Franchement, super content. Bon, le brouillard, etc., on ne voyait pas grand-chose.
Tu as dû faire plus d'efforts que le
LOSC, je pense. Comment ?
Tu as dû faire plus d'efforts que le LOSC, je pense. Si tu as suivi le parcours des clubs français en Ligue des Champions, plus d'efforts que le LOSC.
Alors, je n'entends pas trop bien parce que j'ai l'écho derrière. Mais c'est pas grave, je continue à parler. Alors, donc, du coup, je disais, donc, après ça, quelques jours après, on a mis un petit peu Copacabana, Ipanema, les plages, etc. Je me suis dirigé du côté du pont des sucres, le pain de sucre, que voilà, j'ai fait aussi à pied, mais bon, à un moment donné, il fallait prendre le téléphérique. Bon, j'aurais pas aimé le prendre, mais bon, là, je l'ai fait quand même.
Bilal, bien sûr.
Donc, du coup, après ça, j'ai changé d'hébergement. Je me suis retrouvé avec les amis du sport, du jiu-jitsu, à être orienté vers un hébergement dans la favela de Cantagalo.
De Cantagalo, ok, très bien.
Tout à fait, c'est bien ça, ouais. Donc en face de moi, il y a Rocinha, il y a d'autres favelas. Et je suis en plein favela, j'ai assisté à un projet social avec les jeunes ici de jiu-jitsu brésilien. J'ai été accueilli à l'académie Fernando Terere, donc c'est une grosse culture dans le jiu-jitsu, voilà.
Ok.
Et du coup là, je suis sur le toit d'une des maisons en plein cœur de la favela. Voilà.
Donc le magnifique paysage, Bilal.
Ben c'est ça. Vous avez des côtés, le côté Leblon, le côté un petit peu aisé, on va dire. Et là, je suis, on va dire, dans la sauce où autour de moi c'est tout rouge, à pied d'abri rouge.
Bilal, dernière question. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué jusqu'à présent dans cette magnifique aventure?
Alors, ce qui m'a marqué le plus, c'est la mentalité des gens ici, surtout dans la favela où on pense que c'est insécuritaire, et finalement, ça n'est pas plus que ça. Parce que, par exemple, aujourd'hui, j'ai eu la chance ce matin de me lever à 6 heures ce matin et d'aller avec une dame, en fait, chez qui je suis, qui fait de la distribution de repas, etc. Et voilà, je suis parti avec elle, j'ai suivi, et j'ai vu un petit peu qui elle était, ce qu'elle était, le projet social qu'elle a fait ici pour les femmes, les familles libres, etc. Et franchement, ça m'a vraiment, vraiment touché. Voilà, là, dans tous les cas, j'ai diffusé certaines choses sur, comment ça s'appelle, les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat et compagnie. Et surtout, j'ai dit aux auditeurs de rester branchés, parce que sur YouTube, ça va arriver très, très fort. Donc, je répète, ça s'appelle Rotten de l'aventure.
Merci, merci pour tout, Bilal. On vous souhaite le meilleur. On vous retrouve, nous, la semaine prochaine.
Allez, à la semaine prochaine.
Merci, Bilal. Bon courage à vous. Allez, une petite pause. On se retrouve juste après.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
On est de retour pour la deuxième partie de Time Sport sur Beurre FM, 20h, 21h, votre émission sport quotidienne. On embrasse Bilal Nenman qui n'est pas avec nous ce soir, mais qu'est-ce qui t'arrive, Viknesh ?
Moi, rien, j'attends l'invité avec impatience.
D'accord, ok.
Bien collé au micro.
Très bien. Viknesh avec nous, Abdel, Samir, Fred, sans oublier Sarah qui nous a rejoint, pardon. On enchaîne avec l'invité de ce soir.
Time Sport. The Special One. The Special One. The Special...
Vous avez certainement l'habitude de le retrouver de temps en temps dans l'équipe du soir avec nous, l'excellent journaliste Dave Apadou. Bonsoir Dave.
Bonsoir les amis, bonsoir à toutes et à tous.
Salut.
Bonsoir.
Un vrai plaisir de vous avoir dans notre émission Time Sport sur Beurre FM.
Ah ben c'est partagé. Franchement, je dois vraiment vous aimer. Là, je suis devant l'Azio Marseille, mais je me suis dit, bon, allez, je fais une petite encoche pour les potes de RFM.
C'est gentil. Alors, justement, Dave, on en est où, là, dans ce l'Azio Marseille? Toujours 0-0, hein?
Toujours 0-0. Je sais pas comment Marseille fait pour ne pas mener à la marque. Ils font un vrai bon match, quoi. Mais bon, comme d'habitude, en Ligue Europa, je sais pas pourquoi, ils n'arrivent pas à tuer les matchs. Mais bon, c'est sympa à suivre.
Ouais, peut-être le manque d'expérience des Marseillais. On sait qu'il y a... Il y a eu un gros recrutement, une équipe jeune à fort potentiel, mais on se rend compte peut-être qu'à l'échelle européenne, pour le moment, ça pêche un petit peu.
Ouais, après, je ne sais pas si c'est exactement l'expérience, mais pour l'instant, c'est une équipe qui n'est pas encore assez tueuse par rapport aux occasions qu'elle se procure. Le haut niveau, on le sait, c'est l'efficacité, mais par contre, dans leur match, on ne s'ennuie jamais. C'est déjà sympa, rien qu'à regarder. Moi, je regarde ça aussi, quoi.
Ouais, ça joue pas mal au ballon. Fred, une question pour Dave.
Non, c'est vrai que Dave a raison hein, quand il dit qu'en Europa League, il tue pas. Peut-être que Marseille joue simplement la Ligue 1 cette saison.
Bah, est-ce qu'il joue la Ligue 1, je sais pas. En tout cas, Sampaoli a dit qu'il ne prenait pas la Ligue Europa à la légère. Et quand je vois le contenu des matchs, j'ai l'impression qu'il les joue à fond. Mais il y a un petit manque de, comme on dit, d'efficacité, de réalisme. Et voilà, mais bon, après, comme on l'a dit, c'est une équipe qui est peut-être un peu inexpérimentée. Peut-être que l'Europe, ça s'apprend, l'Europe, ça ne se prend pas comme ça d'office. Il faut un peu la séduire, il faut un peu la dompter. Et ben voilà, il passe peut-être par là. Ouais.
Abdel.
Oui, bonsoir, Dave. On est dans une campagne où on parle beaucoup du Ballon d'Or. Est-ce que pour toi, Karim Benzema est le candidat numéro un au titre?
Il fait partie des favoris. Ça c'est sûr. Il a pour lui d'avoir fait une année exceptionnelle. Il a une deuxième chose pour lui, c'est que c'est un joueur magnifique à voir et ça compte dans le vote d'un ballon d'or. C'est-à-dire qu'un joueur qui est efficace et beau à voir, et ben forcément il attire plus de regards. Et puis il y a un troisième élément qui rentre en ligne de compte. Il a marqué des sacrés buts juste avant la période des votes avec l'équipe de France contre la Belgique, puis surtout contre l'Espagne. Et ça forcément. La dernière impression, elle compte toujours un peu plus que celle d'il y a 6 mois. Et peut-être que Benzema, il a marqué des points importants, là. Ce but contre l'Espagne, je pense qu'il a fait tour du monde et qu'au moment des votes, le votant, peut-être que ça a encore un peu rehaussé la valeur de Benzema. En tout cas, c'est un joueur qui est exceptionnel parce que à 34 ans, j'ai l'impression qu'il n'a jamais été aussi fort, quoi. Donc, c'est fou, quand même, de dire ça.
Ouais, en effet. Samir,
Oui, bonsoir Dave. On évoquait l'Olympique de Marseille il y a quelques secondes. On a quelques jours du Classico. Est-ce que vous pensez objectivement que l'Olympique de Marseille peut enfin tenir leur victoire contre le Paris Saint-Germain au Vélodrome?
À domicile, ouais.
À domicile.
Ouais, à domicile. En fait, c'est compliqué parce qu'en fait, Paris, cette année, on a l'impression qu'ils ne sont pas très, très impressionnants et pourtant, allez, quasiment tout lourd, à part contre Rennes, ça tourne de leur côté. Mais maintenant, il y a un truc à Marseille, c'était une espèce de folie, d'intensité, de bazar même dans leur jeu, un côté un peu foutraque. Peut-être que c'est un truc qui peut un peu déstabiliser Paris. Paris, quand on joue un peu à leur rythme, on n'a aucune chance, on est mort parce qu'il y a trop de talent en face. Et que même sans bien jouer, à un moment, ils vont vous le faire payer. Ce côté un peu fou qu'a Marseille cette saison, où on ne sait pas très bien qui fait quoi, où les joueurs ils sont un petit peu partout en même temps, il y a une espèce d'intensité, de bouillonnement. Et je me dis que ça peut peut-être les surprendre. Il y a un truc où je suis inquiet. C'est que leur défense, elle est quand même très, très perméable.
Ouais.
Et il y a un ou deux phénomènes en face. En ce moment, il y a un extraterrestre à Paris. Et puis, il y a un génie à côté de lui. Donc, ça peut être compliqué. Vous avez évidemment compris de qui je parlais.
C'est vrai qu'il y a l'image du Paris Saint-Germain. On l'a vu encore. Un dev en Ligue des Champions. Le PSG a encore mené. Le PSG est revenu. Le PSG s'est imposé. Pourtant, c'est vrai que dans le contenu, ça reste sur notre fin. Mais il y a Mbappé, il y a Messi, il ne suit pas grand-chose et ça fait la différence.
C'est terrible hein, parce que tu as l'impression que leur le schéma de jeu de Pochettino, il tient sur un emballage de chewing-gum, quoi. C'est-à-dire on essaye de tenir un petit peu et puis on file la balle à Mbappé et il va bien nous inventer un truc avec Messi. Et pour peu que Neymar revienne un tout petit peu à son niveau, bon ben voilà, peut-être que le projet de jeu du PSG il va juste se réduire à ça. D'un côté, c'est fabuleux parce qu'on a trois joueurs hors norme, surtout un en particulier en ce moment, c'est Mbappé, Messi qui reste un génie et on espère Neymar qui va le redevenir. Mais quand on voit les joueurs, la puissance financière du PSG, on se dit, mais il y a moyen de faire mieux, il y a moyen de se faire une machine de guerre, comme on voit du côté du Bayern, comme on voit parfois du côté de Manchester City, comme peut-être du côté de Liverpool ou autre. Et on ne voit pas ça du côté du PSG. Mais ils ont deux, voire trois extraterrestres qui, pour le coup, échappent et font un peu déjouer la vérité d'un match. Et que Paris joue pas très bien, mais Paris gagne tout en ce moment. Donc, elle est compliquée à lire.
Samir.
Dave, vous avez cité le nom de Kylian Mbappé. J'ai lu un petit peu partout dans la presse que il est possible qu'il signe un contrat de courte durée pour ne pas partir gratuitement. Est-ce que vous êtes de cet avis ou pas du tout?
Bah, en tout cas, c'était une des options privilégiées par le clan Mbappé. C'était et ça faisait un moment qu'ils essayaient de négocier ça. Alors après, pourquoi ça n'a pas abouti là, on rentre dans le secret des dieux et je suis bien incapable de vous répondre. Mais je sais que ça, c'était une des options privilégiées par le clan Mbappé. C'était de continuer encore un petit peu avec Paris, notamment pour aller comme le souhaite le PSG, au moins jusqu'à la Coupe du Monde au Qatar. Et ensuite pouvoir libérer Mbappé avec la possibilité de toucher une indemnité. Je sais qu'ils essayent de travailler dessus, c'est pas facile, là, on est vraiment dans des trucs de très très haut niveau, mais je sais que c'est une option qu'il ne faut pas complètement écarter non plus.
Viknesh.
Moi j'ai une petite question plus largement sur le championnat français, parce que là on voit qu'il y a pas mal de clubs qui sont attractifs, Marseille, Lille, Lyon, Monaco, Paris et d'autres, même Rennes pourquoi pas, et Nice aussi, sans oublier Nice bien évidemment que j'adore. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous en pensez de l'attractivité de la Ligue 1 et son évolution depuis ces dernières années?
C'est surtout que cette année moi je trouve qu'on a un championnat qui est fabuleux. Alors tout le paradoxe est que bon, quasiment on est champion, enfin, je veux dire voilà, il y a l'équipe hors sol qui est partie et on la reverra sûrement plus. Mais je ne sais pas si vous regardez les matchs le week-end, mais franchement on s'ennuie jamais quasiment. Il y a même les petites équipes, alors je mets les petits entre guillemets, vous pouvez se venir, Clermont 3, ça joue au foot, quoi.
Ça joue au ballon, ça joue au ballon. Il y a des projets de jeu.
Ça joue au ballon, quoi. Je veux dire, les sorties de balles elles sont travaillées, c'est propre, il y a une vraie audace, on se dit pas on veut jouer le maintien en bétonnant, c'est on joue en jouant. On joue le maintien en jouant au foot. Et ça, c'est une espèce de culture un petit peu nouvelle, un peu insolite en Ligue 1. Franchement, je me régale cette année à regarder les matchs de Ligue 1. Le multiplex du dimanche après-midi, c'est pas un extraordinaire, je le regarde, c'est beau, c'est sympa, il y a plein de trucs à voir. Et ce que vous dites, vous avez raison, c'est que plus le championnat est sympa, plus les investisseurs vont avoir envie de se dire tiens, c'est un spectacle qui est cool à voir, c'est un spectacle à 0-0, 1-0, des matchs entre deux blocs. T'as un investisseur, t'as pas envie d'investir là-dedans. Si tu vois des trucs, ou même les petites équipes au jeu, où il y a des buts, où il y a des choses comme ça, ben c'est tout, quoi. Et je te dis, ben, ça va attirer des gens qui vont mettre un peu plus de pognon, les droits télé vont forcément augmenter parce que ben il y aura un peu plus d'audience, etc., etc. Faut faire le pari qu'a fait la Bundesliga il y a maintenant une quinzaine d'années, de se dire il faut que ce soit un spectacle. Et ça, on l'a un peu trop oublié en France, et peut-être qu'on va pas le trouver en France.
Alors, avant la question de Sarah, je vous donne un résultat assez insolite. En Ligue Europa, les Norvégiens du Bodo Glimt mènent sur le score de 6-1 face à la Roma de José Mourinho. Il reste 2 minutes à jouer. 6-1, Dave, pour Bodo Glimt face à l'AS Roma. En soirée, un jeu de Football Manager où la Roma a joué à 8, mais non, c'est.
Bah, the Special One, c'est bien le premier à avoir perdu autant contre un club norvégien.
Étonnant, Dave, comme résultat.
Ouais, étonnant. Et en plus, je crois que quand vous m'avez lancé avec le jingle du Special One, pourquoi? Bon, ben, j'ai pas porté chance. Alors après, j'ai plein de peau de la Roma sous les yeux, mais bon, je sais pas s'il a pas mis la Primavera ou je sais pas quoi. Enfin, mais ça me paraît énorme. C'est fou quand même.
Oui, je vous confirme que c'était pas l'équipe titulaire.
Mmh. Ouais, alors après, bon, l'équipe pas titulaire, elle a le droit de perdre. 6-1, là c'est une démission, quoi. Enfin,
ouais.
C'est particulier.
Ouais. Sarah.
Oui, bonsoir. Toujours sur la Ligue 1, qui est-ce que vous voyez sur le podium cette saison, à part Paris qui est très très bien parti pour être premier, mais.
Son chouchou.
Alors, bon, c'est compliqué parce que vous avez vu le traitement. On est encore dans un championnat. Moi, j'appelle ça un championnat, et c'est pas péjoratif parce que ça a pu l'être, mais ça ne l'est pas dans ma bouche, là, cette fois. C'est un championnat du ventre mou, c'est-à-dire qu'entre le 3e et en fait le 14e, je pense qu'il n'y a pas que 4 points ou un truc comme ça. Donc on est vraiment sur un championnat extrêmement serré. Mais allez, si je devais parier, bon, je dirais évidemment le premier, on le connaît, on va dire. Je mettrais bien Lyon sur le podium parce que je crois que Victor Bosch, il va trouver la solution. Et le troisième, allez, je dirais bien l'OM. Je me dis qu'il y a une espèce de folie dans cette équipe. Il y a un truc, il y a un élan, il y a une envie des joueurs de participer à ça. Par exemple, Yendouzi, c'est un joueur qui a eu du mal à se poser. Là, cette année, on a l'impression qu'il est en train de franchir une étape. Allez, je me dis. Paris, Lyon-Marseille, pas forcément dans cet ordre, mais je me dis que ça a une bonne tête de championnat.
Et donc, du coup, vous ne voyez pas les Lensois continuer sur cette dynamique?
Alors, il y aura un souci pour Lens, c'est qu'il y a la CAN, et que quelqu'un comme Sekou Fofana, il est irremplaçable. Je pense que c'est un des meilleurs joueurs du championnat. Franchement, je le pense. Je pense que c'est un milieu de terrain comme il n'y en a pas beaucoup, mais que ça tient trop sur lui, en fait, Lens. Après, c'est une super équipe, hein. Klose, etc., c'est des super joueurs, mais il y a Fofana et les autres. Et je ne sais pas si c'est un club qui est calibré pour quand même tenir toute la saison et aller jouer podium. Peut-être que je me trompe, je le souhaite, parce que c'est une des équipes les plus sympas à voir. Mais je les sens moins puissants sur la durée qu'un club comme Lyon. Après, ça peut bouger, allez savoir.
On a notre réalisateur qui est supporter du Racing Club de Lens avec le t-shirt l'accent. D'un certain Tony Vérel. Voilà, et ouais, en effet. Les bouclettes de Tony Vérel, Fred. Ouais.
Bien sûr.
Oui, bonsoir, Dave. Tu parlais d'investisseurs en Ligue 1. On sait que tu fréquentes souvent Bernard Lyons. Peut-être que tu saurais nous en dire plus sur la vente de l'AS Saint-Etienne.
Alors, très compliqué pour la vente de Saint-Etienne parce qu'en fait. Ce qui complique un petit peu le truc, c'est qu'il ne vous a pas échappé que c'est une direction bicéphale. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a deux présidents, et eux, n'ont pas forcément les mêmes options, les mêmes envies sur les différents dossiers, les différents candidats. Donc le problème, c'est une direction qui complique. Vous avez vu, hein, souvent, ils ne sont pas d'accord, etc. Parfois même, c'est un peu.
Oui, Romaillard Cayazo, c'est.
Voilà, exactement.
C'est ça, un peu.
Ils sont pas toujours d'accord. Et pour le choix du prochain investisseur, il faut quand même qu'ils trouvent un accord. Et j'ai cru comprendre que ce n'est pas toujours très, très simple. Donc ça reste un dossier qui est un peu obscur. Il va falloir aller vite parce que Saint-Etienne est en grand danger d'ailleurs.
Grand danger, Dave. Saint-Etienne est simplement, naturellement, lanterne rouge, 4 points seulement, 4 nuls. Ouais, c'est triste, hein, 6 défaites, 9 buts marqués pour 23. 23 encaissés, c'est malheureusement pour le moment des stats d'une équipe qui. Ouais, qui
la marque est inexistante.
Qui va tout droit, a priori. Après, ce qui est dommage, c'est que. Il y a du potentiel, ils ont des bons joueurs, hein. Ils ont des bons jeunes, mais des bons jeunes quand ils sont pas encadrés par des taulis dans chaque ligne, ben, des jeunes qui sont un peu libres à eux-mêmes. Regardez l'exemple de Lille, la première année quand il y a Bielsa, alors Bielsa n'est pas resté, c'était Gatti, mais la première année leur projet c'était quasiment que des jeunes et ils ont joué le maintien quasiment jusqu'à la dernière journée. Et l'année d'après, vous faites venir José Sonde, vous faites venir Loïc Rémy, vous faites venir un ou deux mecs comme ça au milieu.
Ils finissent deuxième.
Et cette équipe, elle joue l'Europe. Il n'y a pas que près. À un moment, la jeunesse, elle a besoin de quelques guides, de quelques cadres. Et à Saint-Etienne, je ne sais pas où ils sont, à part ça aussi, peut-être.
Oui, Devs, on est en semaine européenne, notamment de Ligue des Champions. Quelle est l'équipe qui t'a le plus impressionné pour le moment, après la phase aller de ces phases de poule?
Tout club confondu ou
Oui, tout club confondu en Ligue des Champions.
En Ligue des Champions,
ouais.
Il y a, je trouve que le Bayern met une claque un peu à tout le monde quand même. Encore hier, pourtant, ils font un énorme match, mais à partir du moment où ils en mettent un, derrière, c'est l'Avalanche. Où ils avaient puni Barcelone, mais en ce moment, c'est pas forcément un exploit, mais je les trouve très au-dessus. Il y a eux, Liverpool, que j'ai trouvé très très fort. Finalement, ils gagnent tous leurs matchs dans un groupe où il y a quand même Atlético de Madrid, Porto, Milan. Ils ont tout gagné. Pour l'instant, c'est un peu les deux clubs qui se détachent. C'est un peu comme ça que je le vois.
Et je voulais justement revenir sur le PSG, on dit souvent que c'est une équipe maintenant qui subit beaucoup, mais qui arrive à gagner ses matchs. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau style de jeu de leur part?
Bah, déjà l'année dernière, ils ne maîtrisaient pas grand-chose et ils finissaient par gagner. Vous vous souvenez du match contre le Bayern, il y avait une avalanche du côté bavarois. Alors, je pense que s'il y a Lewandowski, ça aurait plus mal terminé parce qu'il y aurait quelqu'un qui est vraiment clinique, qui n'a pas besoin de s'en vendre l'occasion. Mais on voyait que c'est une équipe qui, le PSG, qui ne maîtrisait pas grand-chose, mais grâce à Neymar, grâce à Mbappé, arrive sur 2-3 coups de drapeau à vous retourner à peu près n'importe quel match. On a l'impression que c'est un petit peu la construction de ce PSG-là, c'est-à-dire qui est basé sur beaucoup de talent, quand même du courage, pas beaucoup d'organisation, mais pour l'instant, ça passe. Après, du coup, ça passe. C'est-à-dire que l'année dernière, après, on a vu qu'en demi-finale, quand on s'est organisé et structuré par Manchester City, il y avait un plafond de verre. Voilà. Et jusqu'où ça te porte, ce type de choix, je ne sais pas. Il se trouve que Mbappé est tellement hors norme qu'on se dit, mais est-ce que ce type est limite? Pas sûr. Mais c'est frustrant. C'est frustrant parce que, par ailleurs, quand on a des joueurs comme Verratti, Gay, Wayne Ado, etc., on se dit, bon, ben. Normalement, il y a de quoi faire une équipe structurée qui
est au foot. C'est ça la vraie question, c'est qu'en fait, c'est de se demander, est-ce que c'est volontaire de leur part? Parce que quand on voit ce groupe, cet effectif, on se dit, comme vous le dites, Dev, il y a de quoi jouer au ballon, il y a de quoi avoir la maîtrise que l'on avait vue lors des premières années parisiennes, mais qui se perd depuis bien deux saisons.
Bah, de toute façon, on va dire les podcasts, hein, on va dire l'équipe du PSG a jamais mieux joué au foot collectivement que sous Laurent Blanc. Et c'est là qu'elle avait l'identité de jeu la plus identifiable. C'est simple. Je veux dire, certains de vous qui avez les matchs du PSG avec Laurent Blanc peut dire en une phrase comment elle jouait. On peut le définir tout, 4-3-3, position, champ, triangle au milieu, etc., etc. Vous le refaites pas. Depuis le départ de Laurent Blanc, collectivement, c'est en chute libre. Depuis Emery, c'était un peu moins bien. Sotrol, ça a eu une bonne période, ça a fini complètement lâché. Et depuis Pochettino, franchement, je me défie de savoir comment joue le PSG. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de ligne directrice définie. Alors pourquoi les coachs n'arrivent pas à s'imposer? C'est des bons coachs, pourtant Emery, c'est un bon coach. Tourelle, c'est un très grand coach même. Pochettino, il a fait des bonnes choses avec Tottenham. Pourquoi est-ce qu'à Paris, ça ne fonctionne pas? C'est peut-être l'architecture du club qui fait que l'entraîneur, il n'a pas tout à fait l'attitude, le poids, l'autorité pour pouvoir imposer exactement ce qu'il veut.
Allez, Samir, pour terminer.
Oui, Dev, on est à un tout petit peu plus de 2 mois du début de la CAN. Je sais que vous en avez beaucoup parlé un petit peu partout. sur les plateaux. J'imagine qu'on est écouté ce soir par un grand nombre de supporters algériens. J'ai envie de vous entendre sans langue de bois, s'il vous plaît, sur la petite guéguerre de Laure Belmadi. Est-ce que vous comprenez plus la position de Jamel Belmadi ou alors celle d'Andy Delors?
Bah, moi, si je dois prendre le dossier au point où on l'a découvert, évidemment, moi, je suis plutôt du côté de Jamel Belmadi. C'est quand même compliqué. On sait que les qualifications pour la Coupe du Monde sont extrêmement dures en Afrique. Je pense que les Européens ne se rendent pas compte de ce que c'est que d'aller jouer à l'extérieur en Afrique. Surtout que tu vas jouer dans des petits pays, mais non, tu vas jouer dans des pays où les conditions sont hostiles. C'est compliqué. C'est-à-dire qu'il y a tout un groupe qui va taper ce périple-là et un autre qui se met en réserve de rappui en disant « Bon, ben les gars, vous faites le boulot et derrière, vous loin.
Ouais. »
C'est un peu facile, et c'est pas tout. Par contre, moi, je m'interroge aussi sur le fait que est-ce que l'Algérie continue aujourd'hui de son niveau, de son potentiel, de son vivier local qui est de plus en plus vif. Est-ce qu'il y a besoin d'aller chercher peut-être des joueurs qui ont découvert avant-hier que peut-être ils avaient un passeport algérien parce qu'il y a 2-3 ans, je pense qu'il n'avait jamais imaginé jouer pour l'Algérie. À un moment, jouer une sélection nationale, c'est pas une boutique, quoi. C'est pas tiens, je passe dans la rue, je m'arrête, je vais faire mes enquêtes.
Oui, mais est-ce que.
Une vraie vocation.
Est-ce que c'était pas l'inverse? Est-ce que c'est pas Delors qui a trouvé l'Algérie là sur ce coup-là?
Je pense qu'il y a eu deux opportunités, c'est-à-dire que Delors, il sait qu'il a la possibilité éventuellement de jouer pour l'Algérie, il tente le coup, et il se trouve que du côté de l'Algérie, on accepte. Bon, après, ils s'entendent sur ce coup-là. Moi, j'ai pas de jugement là-dessus. Je me dis juste, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que l'Algérie ne doit pas s'appuyer sur des joueurs qui ont un vrai engagement vis-à-vis de la sélection? Cette sélection, elle le mérite. C'est une sélection que moi, je vois. Un outsider très très dangereux pour la Coupe du Monde de l'an prochain. Je me dis que cette équipe-là, telle que je la vois, elle est un peu depuis combien, une trentaine de matchs, mais elle a tout ce qu'il faut en magasin. Il n'y a peut-être pas besoin d'aller chercher à droite, à gauche, des talents qu'eux, ils ont déjà. Et peut-être commencer aussi à développer et à donner sa chance aussi au vivier local. Ils le méritent. Et je pense qu'il y a un savoir-faire en Algérie qui doit être aussi développé aujourd'hui, comporté par des locomotives comme Marais, Pelaïli, etc. Peut-être qu'il y a moyen de faire émerger d'autres talents plutôt que d'aller chercher des talents qui se découvrent algériens la semaine d'avant-fois.
Merci Dave, en tout cas, pour votre belle intervention. On vous retrouve ce soir?
On me retrouve dimanche soir pour le Classico.
Merci encore Dave, merci pour tout.
Time Sport revient dans un instant. Vous avez écouté une musique sur Beurre FM et vous n'avez pas retenu le nom de l'artiste? Retrouvez tous les titres diffusés sur beurrefm.net et l'application Beurre FM.
Vous cherchez la personne qui vous complétera? Salam au 61000. Faites des rencontres dans la communauté par SMS. L'amour pur, de vraies valeurs? Salam, S-A-L-A-M au 61000. Votre âme sœur vous attend peut-être? Alors envoyez Salam au 61000.
50 centimes plus prix du SMS DGP.
Jeudi fou! Jeudi!
Il va pas bien là?
Ah si, il va très bien. Il vient d'apprendre que les mardis fous Domino's sont maintenant aussi le jeudi. Toutes les pizzas médium et larges à emporter sont à 7,99€.
Oui, c'est jeudi fou!
Domino's.
Prix conseillé à emporter hors signature. Conditions et Domino's participants sur domino's.fr. Pour votre santé, bougez plus.
C'est bon de profiter d'un repos bien mérité. Non, c'est même magnifique. Comme la nouvelle collection Poltrone et Sofa. Des canapés en cuir ou avec mouvement relax, tous faits main en Italie. Dernier jour samedi. En plus, profitez de 45% de remise sur tous nos canapés.
Poltrone et Sofa, authentica qualità. Et voilà.
Qualité authentique, vérifiez conditions en magasin.
F20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
On tourne pour la troisième partie de Time Sport sur Beurre FM avec Sarah, avec Fred qui se gratte les oreilles, avec Samir, avec Viknesh, avec Abdel. Allez, on passe à la suite.
La troisième mi-temps.
La troisième mi-temps. On aime bien Viknesh, la troisième mi-temps. Hein.
Ça,
dès
surtout
qu'il y a l'apéro.
Rugbymen, moi,
ouais,
ça va.
Ouais, dès qu'il y a l'apéro, ça y est, t'es le premier.
Pas du tout. Moi, d'accord. Je suis surtout sur le terrain en premier.
Ok. Les amis, les potentiels favoris au Ballon d'Or ont tous brillé. Lewandowski, Jorginho ou autres. Quels sont vos ressentis à l'approche Du futur Ballon d'Or, Fred.
Alors moi déjà j'ai un ressenti, je pense que monsieur Cristiano Ronaldo a gagné sa place sur le podium avec son transfert à Manchester United, parce que je pense qu'avant ça c'était pas forcément gagné. Après Jorginho, en fait la vraie question ce serait quels sont les critères de sélection du Ballon d'Or, parce que j'ai plutôt l'impression que c'est devenu une récompense basée sur des critères plutôt subjectifs. Si on parle du palmarès, c'est pour Jorginho. Si on parle des stats, c'est pour Messi. Si on parle du
Lewandowski aussi,
ou Lewandowski à qui France Football doit un Ballon d'Or. Et si on parle du vraiment du subjectif, moi pour moi c'est pour Karim Benzema. Après, Karim Benzema aujourd'hui a été inculpé de 10 mois de prison avec sursis. Reste à savoir si cela peut influencer les votes, tout simplement.
Tu penses que ça peut jouer, ça?
Je pense, cartons rouges ont joué pour Zinedine Zidane, alors une peine de prison, je pense que ça y joue. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Abdel?
Il me donne la parole.
Donc Icardi n'aura pas le ballon d'or, K, et s'est séparé avec sa femme. C'est ça?
Non, ça, c'est une affaire de mœurs, c'est encore autre chose.
Ah, ça reste de l'ordre du personnel, je sais pas.
Non, après, là, par rapport à ce qu'il dit, c'est vrai qu'on connaît pas forcément les critères. Après, Lewandowski, je pense que cette année, c'est pas son année, malgré qu'il ait battu le record de Gerd Müller et qu'il marque des buts à foison. Le seul souci, c'est qu'à partir du moment où tu essayes de remettre en place en disant que on va donner un ballon d'or pour celui 2020 et un en 2021, c'est que pour moi, Lewandowski, il est pas en tête du classement pour le ballon d'or qui arrive. Personnellement, j'ose espérer que Karim Benzema l'ait, parce que c'est vrai que c'est pas sur une carrière qu'on donne ce genre de récompense. Après, malgré ça, il arrive à faire briller autour de lui et lui arrive à être quand même performant. C'est 6 buts en 11 matchs depuis qu'il est revenu en équipe de France. C'est 11 buts et 7 passes décisives en 11 matchs avec le Real depuis le début de la saison. Et ça fait que confirmer ce qu'il fait depuis maintenant 15 ans ou 16 ans dans le football professionnel. Après, voilà, j'ai bien peur que la personne principale qui ait ce trophée, ce soit Lionel Messi, tout simplement parce que il a gagné la Copa América et que c'est un titre qui
est marqué en sélection. Meilleur buteur,
meilleur buteur,
meilleur buteur, vainqueur de la Copa América.
J'ai peur qu'il ait. Par contre, je veux plus qu'on mette Jorginho dans cette case.
Mais pourquoi?
Parce que Jorginho n'est pas le meilleur joueur de son équipe, que ce soit en club ou en équipe nationale. C'est un mec qui profite de tout le travail des milieux de terrain à côté pour briller. Donc pour moi, il a rien à faire dans.
Donc pensez que Jorginho.
Il met des beaux pénalties et c'est tout ce qu'il fait.
Ce sera pas sur le podium.
Donc pour vous, Jorginho fait partie d'un 11 et en fin de compte, il est
pour faire
la représentation.
Mais non, hier on a parlé sur le plateau. Ils étaient tous contre moi et moi je continue à dire que Jorginho, l'équipe de Chelsea et l'Italie, c'est le métronome de l'équipe. Au milieu de terrain, c'est lui qui fait la loi. Bien sûr qu'il fait la loi, parce qu'il fait aussi entre la défense et le milieu, c'est lui qui fait le lien. Après, on voit en Italie, Verratti, Barella, ils sont bons grâce à Jorginho.
Oh
à Chelsea, Kanté, certes, il est beau, c'est un bon joueur. Mais après, Jorginho, il est là, il est utile aussi. Donc, non, Jorginho, franchement, après, je vais pas dire qu'il sera ballon d'or parce que c'est pas le joueur. Oui, je le mets top 5. Non, top 10. Il faut pas le mettre top 10 ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, le problème, comme on l'a dit, le ballon d'or, en fait, ça devient un trophée individuel. Donc, forcément, on prend en compte les statistiques et les joueurs qui sont bankable, qui font parler, qui ont une bonne image. Et aussi, qui gagnent des titres. Parce que c'est important, mine de rien. Donc, dans cette optique-là, moi, je dirais que Messi ou Lewandowski ou Benzema, je pense que ça sera le top 3, forcément. Parce qu'il faut pas oublier que le ballon d'or, il y a plus de 190 journalistes qui votent. Et vous allez pas demander aux journalistes qui est au Tadjikistan, au Kyrgyzstan, au Vietnam, ou en Mauritanie, ou je sais pas. Les mecs, ils connaissent même pas Jorginho. Donc, les mecs, ils vont voter forcément pour des mecs qu'ils connaissent. Donc, dans ce cadre-là, ils vont voter Messi, Lewandowski. Et Messi, ça fait 15 ans qu'il est au niveau. Tout le monde connaît Messi dans la Terre, partout où vous allez. Donc, forcément, Messi, il a de l'avance par rapport à ça.
Même sur la planète Mars, tout le monde connaît Messi.
Après, je sais pas, il y a qui sur la planète Mars. J'ai pas été encore, mais ouais, je pense, c'est possible. Mais sur la planète Terre, en tout cas, Messi, il est coté. Ça fait 15 ans qu'il est au niveau. Tout le monde le connaît. C'est même plus que du football, Messi. Et ça, faut pas oublier. Il y a 190 pays pour les connaisseurs du foot en Europe, en Sud-Amérique. Il y a pas de souci.
Merci Viknesh. Sarah, on a envie d'écouter un petit peu Sarah Viknesh.
Non mais je sens que Viknesh a très envie de parler ce soir. Fred et Abdel ont parlé des critères que l'on n'a pas du Ballon d'Or, on les a. Les critères sont très simples, performance individuelle et collective pendant l'année, classe du joueur, talent et fair play, et 3, carrière du joueur. Il n'y a pas plus clair en termes de critères. Après, comme l'a très bien dit Fred, du coup, bah, chacun a sa place dans chacune des cases, ou même dans plusieurs cases. Donc, après, je vous trouve quand même assez dur sur Jorginho, qui a quand même un euro et...
le palmarès, par
le Ligue des Champions. Mais bon, Benzema et Lewandowski sont quand même au-dessus.
Oui, mais ils n'ont pas gagné le titre.
Samir, pour terminer.
Bah, Benzema a une Ligue des Nations, quand même.
Samir.
Malgré les critères que Sarah vient de citer, justement, pour l'octroi du Ballon d'Or, j'ai pas forcément l'impression qu'il soit respecté. Par exemple, si on parle purement football, en tant que coach, si je fais un 11 titulaire, bah, j'ai plus envie de mettre N'Golo Kanté titulaire plutôt que Jorginho, par exemple. Alors qu'on est en train de parler d'un potentiel futur... vainqueur du Ballon d'Or. Et pour en revenir à ce que Fred disait tout à l'heure, c'est vrai que l'histoire de justice qui concerne Karim Benzema ne date pas de cette dernière saison, donc je vois pas en quoi ça influerait les décisions. Et puis voilà, enfin moi je pense que par rapport à l'ensemble de son œuvre et de tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a réalisé sur voilà toutes même les dernières saisons, j'allais dire la dernière saison, mais en réalité les dernières saisons, je pense vraiment que Karim Benzema le mérite.
Merci.
Amplement.
Merci Samir, et on passe à la suite.
Time Sport, le mode pressing.
Un petit mot de NBA pour terminer. Fournier et Gobert font le show, Fred.
C'est ça, Claude. Evan Fournier a inscrit 32 points et un panier décisif avec New York pour leur premier match de saison régulière. Rudy Gobert a réalisé également 16 points et 21 rebonds. C'est un début de saison très prometteur pour nos deux Français qui se mettent en avant, que ce soit en compétition internationale et en ce début de saison en NBA.
On peut être confiant pour eux ou pas ?
On peut être confiant pour eux et ils représentent bien le pavillon français à l'étranger, c'est important.
Merci Fred, merci Vignesh, merci Abdel, Samir ainsi que Sarah pour cette belle émission. Merci à la réalisation, ils étaient un beau duo ce soir. Merci de nous avoir écoutés pour cette nouvelle émission de Time Sport sur Beurre FM. On se retrouve nous tout simplement demain, même heure, 20h, 21h. Passez une belle soirée, prenez soin de vous, à demain.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.